Le CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone sur Radio Immo et Radio Territoria.
Ravi de vous retrouver sur les antennes de Radio Immo et Radio Territoria, toujours ici depuis le Grand Palais dans le 8e arrondissement de Paris, pour vous faire vivre cette troisième et dernière journée de cette cinquième édition du CIPCA. On est ravi évidemment de recevoir, de continuer à recevoir de nombreux invités, et c'est d'ailleurs le cas avec Goulwenn Le Gall. Bonjour.
Bonjour Jean-Baptiste.
Merci d'être présent. Ben, vous êtes le bienvenu. Vous êtes délégué général de la stratégie opérationnelle et directeur de la gestion du front de Seine Beaugrenelle, Paris Seine. Merci d'être présent et de répondre gentiment à mes questions. On va parler dans quelques instants du prix que vous avez reçu hier. Juste avant, peut-être, votre impression, vous, ici, quand vous allez arpenter les allées de ce salon?
C'est un salon qui est bien né, qui a maintenant 5 ans. Donc, je crois qu'hier soir, il y a eu une petite fête d'ailleurs, oui. qui a été donnée. Un salon de grande qualité, tant sur la partie des conférences, des intervenants, qui sont toujours très, très intéressants à écouter. Et même, j'allais dire, d'un point de vue des exposants, quand on les entend et quand on échange avec eux, ils sont aussi ravis d'être présents, puisqu'ils trouvent qu'effectivement, les échanges sont de bon niveau et peuvent permettre de trouver des synergies assez rapidement. Rapidement à l'issue du salon. Et puis on est dans un cadre quand même assez exceptionnel.
Ah bah ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Il fait un chouï chaud quand même, mais effectivement, l'écrin est juste somptueux et magnifique. Goulwenn, hier, il y avait les trophées BBCA donc, du CIPCA. Vous avez été primé, vous avez reçu le coup de cœur. Déjà, félicitations. C'était pour quel projet?
Alors, effectivement, on reçoit un peu le coup de cœur parce qu'on est un peu le petit pousset là-dedans. Nous, on est une structure assez modeste. On est à une cinquantaine de collaborateurs. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas le déploiement que peuvent avoir les grands majors. Donc, on a eu ce projet coup de cœur pour un bâtiment qui est dans le 15e arrondissement, sur la dalle de Beaugrenelle, qui est le bâtiment Orion. Donc, la dalle de Beaugrenelle, hein, c'est un quartier, j'allais dire, typique des années 70. Qui reste dans Paris, qui est d'ailleurs beaucoup photographié et beaucoup filmé désormais, puisque c'est une décennie qui est à la mode. Un bâtiment qui a été mis en place et inauguré en 73 avec Perron et Jalla, avec également la collaboration des ateliers de Jean Prouvé. Donc il s'est trouvé qu'on a eu une opportunité puisque pendant plus de 20 ans il a été occupé par une société informatique qui était le Preneur et qui a décidé en 2009 de nous donner son congé. Et donc on s'est posé la question de savoir effectivement ce qu'on allait faire avec. Bien évidemment il fallait le rénover, et au-delà de la rénovation architecturale, parce que c'est quand même un bâtiment assez extraordinaire, aucun angle droit, tout en courbure, donc il fallait bien évidemment préserver cette grande qualité architecturale, mais c'était aussi le moment de se poser la question de savoir comment on allait pouvoir l'améliorer d'un point de vue environnemental, puisqu'il était dans du simple vitrage, voilà, toutes des choses typiques des années 70. Et donc on a pris attache avec BBCA. Et c'est vrai que pour des structures telles que les nôtres, être accompagné par cette association, eh ben ça permet d'allier la grande qualité environnementale et la grande qualité architecturale. Ça nous a permis d'anticiper beaucoup de choses sur le réemploi, par exemple, puisque c'est quelque chose aussi qui a été positionné. Donc un peu plus de 120 tonnes économisées en équivalent carbone, ce qui fait 110 tonnes à peu près de réemploi qui ont été mises en place. On a aussi fait de l'urbanisme transitoire. Il y a une petite société qui s'appelle Camelot qui est venue dans les lieux entre le moment où cette société informatique a libéré les lieux et le moment où on a commencé le chantier, ce qui permet d'éviter du gardiennage. Ça a permis effectivement une occupation assez intéressante sur le site. Et puis après, dans le cahier des charges qui a été mis en place pour trouver la maîtrise d'œuvre, il y avait bien évidemment les critères architecturaux. Il fallait, j'allais dire, embellir encore et mettre en avant ce bâtiment fabuleux. Mais également, dans les critères, bien évidemment, des critères sur le bas carbone.
Et bien sûr. Vous avez reçu d'ailleurs le prix intensité bas carbone.
Exactement. Donc, de la même manière, là, 100% de nos projets sont vécus sur le bas carbone, alors que ce soit sur le bâtimentaire, mais également sur tout le reste des structures. Hein, tous nos projets, on travaille beaucoup pour la ville de Paris sur d'autres projets qui sont aussi le déploiement d'espaces verts, toute la remise en place des espaces verts sur Maillot, par exemple, c'est nous. Mais c'est aussi raisonné en bas carbone.
Le projet Bardinet notamment.
Exactement, Bardinet qui va bientôt sortir. Ouais. Tout ça est effectivement, j'allais dire, calculé selon le bas carbone, et on essaye de faire nos meilleurs efforts pour rester en haut du classement et poursuivre sur des prix.
Et c'est sur le front de scène, là, où on voit effectivement qu'il y a eu 18 tonnes de déchets évités.
Exactement. Alors, ça, c'est sur la partie réemploi. Donc, ouais. La petite anecdote sur la partie réemploi. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont parties, qui ont été réutilisées dans d'autres bâtiments. Et nous, on a gardé, j'allais dire, une partie de l'extérieur qui a été reconfigurée en banquette, qui est désormais la banquette d'accueil pour nos clients, puisque sur le site on est gestionnaire, on reçoit aussi les gens qui nous louent des parkings. Voilà, donc.
Je vais vous faire réagir à un chiffre, si vous voulez bien, Goulouen. En Ile-de-France, les chantiers du bâtiment et des travaux publics ont généré 30,3 millions de tonnes de déchets. Ça, c'était en 2022. Et seulement 67% à l'époque on avait réussi à les valoriser. Face à ces 30 millions de tonnes de déchets, les opérateurs publics devraient-ils imposer finalement une part minimale de matériaux réemployés dans chaque projet, selon vous ?
C'est déjà en partie le cas avec effectivement la sélection des déchets qui doivent être désormais partitionnés avec 6 ou 7 grandes catégories. La difficulté, c'est quand même que vous avez des déchets qui sont quand même très très compliqués aussi à dépolluer et donc par le fait à réinstaller. Donc
dans ce poids total,
ils en font partie.
Évidemment.
Donc oui, sur ceux qu'on est capable de réemployer, on pense assez facilement et assez naturellement à tout ce qui est plomberie, tout ce qui est chauffagerie, à tout ce qui est mobilier, tout ça c'est assez facile à réutiliser. Sachez que dans le bâtiment Orion, nous on a réutilisé les moquettes qui ont été positionnées, puisqu'on est quand même dans l'urbanisme des années 70.
Ouais. Donc on pense forcément, il y en avait de la moquette.
On pense forcément aux moquettes. Et ben nous, on a trouvé quelqu'un qui nous a vendu de la moquette de réemploi. Alors c'est vrai que pour installer ensuite des gens qui viennent dans des bureaux, ça pose parfois question, mais avec de l'explication et de la pédagogie, et ben ils trouvent ça assez génial en fait, parce que c'est une histoire qu'ils ont ensuite à raconter aux personnes qui viennent visiter leurs locaux.
Voilà. C'est bien, c'est calme, ça fait pas de bruit, c'est feutré.
Exactement. Donc on peut toujours mieux faire. Ceux qui sont faciles à revaloriser, évidemment, il faut absolument l'imposer. Oui. Les autres, il faut encore, je pense que la technique se perfectionne sur un certain nombre de déchets ultimes, comme on appelle ça.
Alors, quelques mots sur le projet Bardinet. On annonce plus de 600 m² végétalisés, c'est ça, dont 263 m² de pleine terre, et vise le seuil 2028 de la RE 2020. Mmh. Le projet Bardinet utilise notamment des briques de réemploi. Est-ce qu'avec Parisienne, finalement, vous parvenez finalement à réutiliser les matériaux comme ça, d'un chantier à l'autre ?
Alors, nous, on est un tout petit peu trop modeste pour pouvoir le faire en circulaire chez nous. Donc, on fait appel à toutes les filières qui nous permettent de le faire. Alors, sur ce chantier de Bardinet, on fait appel aux spécialistes du réemploi qui sont plutôt des structures un peu privées par ailleurs. Mais je reviens et je reviendrai sur Bardinet après, mais notamment sur certains projets qui sont développés en mandat avec la ville de Paris, on fait appel effectivement au stock de la ville de Paris, qui est désormais aussi un stock qui peut servir sur le réemploi, que ce soit des arbres, que ce soit du mobilier urbain, que vous pouvez réutiliser d'un site sur l'autre. Plus spécifiquement sur Bardinet, là oui, pour le coup...
14e arrondissement de Paris,
14e c'est ça arrondissement, alors ce sont des petites opérations un peu particulières. C'est ce qui nous qualifie dans une des branches de l'entreprise. On est promoteur public, donc ce qui est un peu une oxymore. Hein. Mmh. Pour le coup, la ville de Paris nous demande de restructurer un certain nombre de parcelles qui sont difficiles à embellir. Pour le coup, elles ont été parfois déjà proposées à des promoteurs privés. Et ils n'en ont pas voulu parce que soit c'était trop complexe, soit l'équation économique était difficile à trouver. Ouais. Donc nous, elle nous demande de mettre en place des communs. On a soit de la remise en place de locaux pour les collaborateurs de la ville de Paris. On le fait sur d'autres projets, notamment pour la direction de la propreté de l'eau, où on va réinstaller des locaux pour les éboueurs. Ici, dans ce cadre précis, ça sera plutôt une salle collective, donc pour les associations. Et puis après, on vient modeler effectivement du BRS, hein, avec nos amis de l'OFS de la ville de Paris. Et puis pour que l'équilibre économique se trouve quand même, parce qu'on reste une entreprise, il y a quelques quelques logements qui sont dédiés à de l'acquisition à la propriété complètement privée, mais avec des taux de rendement qui n'ont rien à voir avec ce qu'on trouve par ailleurs, puisque on est satellite de la ville de Paris, donc on est sur du temps long, donc ça permet aussi de pouvoir réembellir ces parcelles un petit peu plus petites, puisqu'on est sur des choses où on ne dépasse pas les 15 logements.
Donc, oui, c'est ça ce que je disais.
C'est plus compliqué pour des promoteurs classiques pour venir sur ce type de choses,
notamment
en plus de surcroît dans Paris. Où, voilà, on sait que le moindre déplacement est un coût un peu plus important.
Évidemment.
Voilà.
Donc là, c'est on parle d'un bâtiment de 6 étages, c'est ça, avec au moins 9 logements.
Exactement.
Un équipement ouvert au public et plus de, je le disais, donc 600 mètres carrés végétalisés.
Exactement. Donc cette végétalisation, elle a été faite en concertation et c'est ce qui a, j'allais dire, duré un peu le plus longtemps, puisqu'on était sur une servitude avec les voisins, une copro, et donc on est rentré dans une négociation pour pouvoir la racheter. Puis avec les inquiétudes que ça génère, vous venez construire à côté de des gens qui ont du coup du calme aujourd'hui, donc il faut expliquer que tout va bien se passer. Donc voilà, et puis c'est quand même intéressant de pouvoir remettre effectivement en cœur d'îlot quelques centaines de mètres carrés de végétation. Dans le climat actuel, c'est plutôt intéressant que d'y mettre un peu de fraîcheur.
Vous voulez préfigurer le PLU bioclimatique?
Alors oui, alors je pense que la demande a été faite avant, j'ai plus ça en tête, mais de toute manière, on se fait fort déjà d'appliquer le PLU bioclimatique et d'être un bon élève en étant un satellite de la ville.
Et sur ce, d'ailleurs, ce sera terminé quand? Ce sera livré quand?
Alors là, on vient d'obtenir les autorisations administratives, on vient de nommer la maîtrise d'œuvre, donc on pense qu'on pourra livrer quelque part en 2028, pas de temps.
En 2028, d'accord, ok. Et qu'est-ce qui peut être reproduit, par exemple, sur ce chantier-là, à grande échelle, sans surcoût excessif, on va dire? Parce que le passage à l'échelle, c'est aussi le sujet du salon, hein.
Qu'est-ce qui peut être reproduit? J'allais dire, il faut toujours essayer de mettre en place quelque chose qui est beau.
Ouais.
Voilà, c'est ça aussi un tout petit peu. Le beau n'est pas forcément cher.
Oui, mais c'est subjectif aussi, le beau, non?
Oui, mais il faut que ça s'inscrive dans son quartier.
D'accord.
Voilà.
Oui,
c'est-à-dire
voilà.
Que
okay.
le beau du 15e ne sera pas forcément le beau du haussmannien.
Il faut faire avec l'existant à côté. Quoi.
Voilà, ou le beau du faubourien.
Ouais.
Voilà, c'est ça qu'il faut essayer de reproduire. Il faut essayer de faire en sorte que vous veniez vous inscrire dans votre quartier et ne pas être quelque chose que vous imposez aux parties prenantes. Après, dans la reproduction, j'allais dire, sur ce que nous, on a fait dans le 15e, c'est bien évidemment essayer de travailler l'isolation, essayer de travailler l'acheminement du chaud et du froid. Alors, tous les quartiers parisiens ne sont pas encore, malheureusement, couverts par fraîcheur de Paris. Hein, donc ça, il faut essayer de motiver pour qu'on puisse étendre le réseau. En revanche, sur ces PCU, évidemment, voilà, c'est des choses qui doivent être déployées. Et c'est, j'allais dire, nouveau pour personne, mais on ne doit pas l'oublier. On doit bien évidemment travailler sur des extérieurs pour que les gens puissent vivre aussi un tout petit peu à l'extérieur et puis le plus possible, effectivement, sur des appartements qui sont traversés.
Vous parliez du beau à l'instant et qu'il fallait, en fait, se fondre aussi dans l'existant. Comment est-ce qu'on réussit justement, et j'imagine que c'est un enjeu aussi chez vous, à associer les habitants, les usagers au projet sans pour autant rallonger indéfiniment le calendrier, quoi?
Ouais, c'est une vraie bonne question parce que chez Paris-Seine, on a la culture de la consultation et des consultations publiques. Mais à un moment donné, il faut être capable de dire, lorsqu'on met en place une consultation, il faut savoir les points sur lesquels vous êtes prêt à négocier.
Ouais.
Il faut être capable d'arriver aussi dans les premières réunions en disant que vous avez des points sur lesquels il faut être intangible. Et ceux-là, ils ne bougeront pas parce qu'ils font partie à la fois de l'économie du projet et à la fois du respect des normes. Donc, il faut être suffisamment clair dans la concertation que vous menez pour dire, voilà, ces points-là sont négociables parce que vous habitez là. Nous, on vient effectivement construire un objet ou réhabiliter un objet.
Ouais.
Donc, vous avez des connaissances qu'on n'a pas. Mais en revanche, il faut être aussi assez, assez ferme sur les points qui sont non négociables. Sinon, on ne réussit pas une concertation. Et comme vous le dites, on arrive dans des calendriers qui sont, dans ces cas-là, j'allais dire, prolongeables à l'infini.
Vous parlez d'objets, vous ?
Ouais, d'objets, voilà.
En tout cas, bravo pour vos objets qui, en plus, découlent après sur des récompenses. Donc, encore une fois, bravo pour le travail effectué. Un grand merci à Goulouen.
Merci Jean-Baptiste et merci à BBCA.
Merci d'avoir répondu à nos questions. Cette émission, vous pouvez la retrouver dans quelques instants en intégralité et en replay sur les plateformes de Radio Immo et Radio Territoria. Merci de votre fidélité. On revient ici dans quelques instants. À tout de suite.
Le CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone sur Radio Immo et Radio Territoria.